Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour un épisode Lifeguard où on échange avec Julia. Julia est coach et dans cet épisode, elle va nous parler de son parcours de nage. Plus exactement, elle va nous parler de la manière dont son enfance a pu façonner la personne qu'elle est devenue aujourd'hui, de son expérience en consulting et de la manière dont son burn-out à l'issue de celle-ci l'a aidé ensuite à redessiner une vie qui lui correspond. J'espère que cet épisode te plaira et je te dis à tout à l'heure au bord de l'eau. Bonne écoute. Bah écoute Julia, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui, c'était trop cool. Je crois que mon esprit est un peu épuisé, mais je vais essayer d'avoir de la force pour une présence. Alors,
merci de m'accueillir.
Merci. Avant de commencer, je vais te poser la question que je pose à tout le monde et qui, j'avoue aussi, m'aide bien dans ma curiosité et dans mon inspiration dans la vie de tous les jours. J'aimerais savoir, quand tu étais plus jeune, tu voulais faire quoi ou tu voulais devenir qui ?
Très bonne question. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de rêves différents. Donc, j'ai retrouvé un petit carnet il n'y a pas longtemps où j'avais écrit que je voulais être vétérinaire, parce que j'adore les animaux. Okay. Je voulais être danseuse orientale, parce que j'adore la danse et j'adore l'oriental.
Trop drôle.
Je voulais également être actrice.
Ok.
Mais aussi chanteuse. Et je voulais aussi rendre les gens heureux. Donc j'avais potentiellement pensé à tout ce qui était autour du mariage, wedding planner, des choses comme ça, où en fait on voit des gens heureux et on les rend encore plus heureux toute la journée.
Ah, ok. Mais finalement, c'est un peu aussi ce que tu fais aujourd'hui. C'est drôle, en t'écoutant, je me disais, en fait, t'avais envie de devenir Mata Hari. Jusqu'à ce que tu parles de rendre les gens heureux. Je me dis, bon, c'est peut-être pas trop ça, finalement. Mais, ah, génial. Donc, est-ce que maintenant, tu pourrais peut-être te présenter un peu plus et me dire comment tu es devenue coach aujourd'hui?
Oh. Est-ce que tu veux la version courte ou la version longue, tout de suite, maintenant?
Je veux bien la version longue.
Ok.
Et je t'interromprai si j'ai des questions.
Ça marche, n'hésite pas. Du coup, tout commence quand même à peu près, donc après cette envie de l'enfance de rendre les gens heureux, qui du coup venait, maintenant que j'ai fait de la thérapie, mes deux parents, ils étaient tous les deux directeurs d'école primaire. Et donc voilà, on était sur sur une évolution sociale. Enfin, eux, ils venaient de familles pas forcément très riches, donc ils avaient déjà atteint un certain niveau social.
Okay.
Et du coup, ils avaient un peu à cocher les cases de la réussite à leur génération.
C'est-à-dire
d'avoir un statut reconnu dans le quartier, parce que c'est une figure un peu connue, le directeur d'école, d'arriver au sommet aussi de l'éducation nationale sur le côté... passer d'un site à un site spécialisé à directeur spécialisé.
Ok.
Et puis d'avoir un salaire de bonne classe moyenne qui tombe tous les mois, même s'il n'y avait pas beaucoup d'évolution, un truc qui était assez safe, quoi.
Ok. C'est trop marrant. Vu qu'on... Enfin, les gens ne le voient pas, mais qu'on enregistre dans une ancienne école primaire, c'est génial.
Ouais, c'est vraiment un environnement que je connais, parce que j'ai vécu dans un logement de fonction dans une école primaire. Donc.
Ok.
Bref, tout ça pour dire que donc, c'est des personnes qui avaient coché les cases de la société, qui pourtant n'étaient pas foncièrement très heureux, je pense.
D'accord.
Parce qu'ils n'ont pas forcément travaillé non plus sur eux, sur leurs blessures, etc. Et donc, il y avait toujours un peu un truc, un gap en fait, entre ce que moi je voyais de ma famille dans des moments où on était très heureux et où tout se passait bien, et tout ce qu'on avait aussi matériellement, etc. Et parfois, quand je voyais mes parents qui se déchiraient ou qui luttaient contre leurs propres démons, et en fait, en tant qu'enfant, je trouve qu'on a beaucoup ce truc très pragmatique de « mais ils ont tout pour être heureux, alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas juste tout le temps heureux, quoi ?»
Okay.
Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces problèmes qui reviennent, ces difficultés, mes parents qui se crient dessus, ma mère qui est aussi dépressive, qui est dépressive chronique, qui était aussi alcoolique.
Ok.
Donc voilà, en fait, disons que je pense que c'est des choses qui ont forgé mon enfance aussi, et qui m'ont vraiment posé cette question de mais pourquoi les gens sont pas heureux alors qu'ils peuvent parfois déjà avoir tout pour l'être en surface.
Ok. Et est-ce que
Ensuite, tu parles de tes parents qui se déchirent, de la dépression de ta mère, etc. Est-ce que la différence entre l'apparence que tu as en société d'être heureux, de potentiellement avoir ce bon statut social, était vraiment différente de l'ambiance qu'il y avait à la maison, ou est-ce que tes parents pouvaient aussi se déchirer en public et ça avait rien à voir avec l'environnement?
Non, justement, forcément non, mais effectivement, il y avait vraiment une différence entre le côté social, où tout était un peu parfait et tout machin, et le côté à la maison, où il y avait parfois ce côté très sympa, parce que vraiment, mes parents, j'ai eu beaucoup de chance dans mon enfance, j'ai passé des moments incroyables, ça pouvait être des super parents. Okay. Mais ils avaient aussi leurs failles et des difficultés à la maison qui étaient vraiment compliquées et qui n'étaient pas connues socialement. Donc j'étais aussi dans une certaine forme de solitude par rapport à ça, parce qu'en fait les gens ne savaient pas ce qui pouvait se passer dans le foyer, quoi.
Ok.
Voilà.
D'où l'envie et le besoin de rendre les gens heureux.
C'est ça, donc je pense que ça vient de là. Et je sais d'ailleurs que déjà à l'époque, j'étais un peu une mini coach, parce que je me souviens qu'à la rentrée, tu vois, à chaque moment un peu charnière, j'étais en mode, bon alors, on va prendre les choses en main. Papa, ça fait des années que tu veux maigrir. Qu'est-ce que tu mets en place pour maigrir? Maman, tu vas aller à la danse, mais tu passes ta vie devant la télé. Quand est-ce que tu vas à la danse? Quand est-ce que tu t'inscris à un cours? En fait, je comprenais pas que les adultes veuillent des choses et qu'ils passent pas à l'action pour l'avoir, alors qu'ils en étaient... je voyais bien qu'ils avaient les cartes en main, mais qu'ils le faisaient pas. Et moi, je connaissais pas tout le principe de juste on est des humains, et il y a une grosse différence entre ce qu'on veut et ce qu'on fait.
Oui, et même potentiellement, socialement, on te construit d'une certaine manière, l'apparence dont on parlait, donc tu peux faire tout ce que t'as envie, mais tu t'oses pas non plus aller vers ça.
Absolument.
Ah. Et attends, du coup, tu voulais rendre ta famille heureuse, rendre les gens autour de toi heureuses. Et comment t'as évolué après? Parce que tout à l'heure, on a parlé, juste avant d'enregistrer, du fait que tu t'es retrouvée consultante dans une grande entreprise. Enfin, moi, c'est pas vraiment ma définition du bonheur. Mais donc, quel a été le
lien?
Oui.
Alors ensuite, du coup, donc là, c'était vraiment mes rêves d'enfant.
Okay.
Moi, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Comme je te dis, comme j'avais beaucoup d'aspirations, tu vois, le monde du spectacle, les animaux, les gens heureux, enfin bon, c'était assez dispersé dans ma tête. Donc j'ai toujours fait des trucs très généraux. Donc j'ai fait ES, ensuite je suis rentrée à Dauphine en management. Vraiment, j'ai essayé de garder toujours les portes ouvertes parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et en sortie d'école, je me suis dit, je sais toujours pas ce que je veux faire, donc je vais essayer de faire un métier un peu large qui va me permettre de découvrir le monde du travail. Et consultant, faut pas oublier quand même que notre mission, c'est d'aller aider les gens, quand même.
Ah, c'est vrai.
Donc, faut savoir que c'était dans une petite boîte, c'était une PME, donc déjà c'était quand même pas du tout un gros cabinet, je me suis très bien, enfin, c'était une boîte très sympa, j'ai gardé beaucoup d'amis de là-bas. C'était vraiment une ambiance cocooning et tout, très sympa. Okay. C'est juste qu'après, on intervenait dans des plus grosses boîtes et que c'était des environnements de travail qui, moi, me parlaient beaucoup moins.
Okay.
Mais c'est vrai que la vocation des associés à la base, c'était des associés qui venaient de gros cabinets qui, justement, avaient voulu recréer un truc à taille humaine. Où il y avait un peu cette ambiance école de commerce aussi, tu vois, où il y avait beaucoup de soirées, beaucoup de team building et tout. Donc c'était plutôt sympa. Et leur vocation, c'est vrai que c'était, ils nous la transmettaient d'aller aider les entreprises, les accompagner dans leur changement. Donc il y avait quand même une volonté de venir en soutien et de faciliter le changement, etc. Et d'ailleurs, moi j'avais eu de la chance parce que j'avais réussi à assez vite me positionner dans cette boîte sur des métiers qui m'intéressaient quand même pas mal, donc plutôt sur de la communication, de la conduite du changement, de la formation, de l'animation d'ateliers aussi d'intelligence collective. Donc on parlait design thinking tout à l'heure, tu vois, c'est le genre de choses aussi que je pouvais travailler, donc j'ai même fait des ateliers sur la communication non violente à la fin, donc donc j'avais déjà ce côté moi je veux accompagner l'humain et dans le changement, dans l'évolution.
Ok. Et donc tu ne savais pas ce que tu voulais faire, mais tu le savais quand même au fond de toi.
En tout cas, j'ai suivi sûrement un peu inconsciemment un désir que j'ai pas forcément formulé.
D'accord.
Voilà.
En plus, c'est vrai que cocooning et consulting, dans mon esprit, c'est pas des pratiques que tu fais nécessairement rimer. D'autant plus que j'ai vraiment cette image de... Après, je pense que c'est assez cliché, mais tu vois des personnes qui sont habillés en costume, qui sont à la défense. Enfin, moi, j'ai déjà pleuré sous l'arche de la défense, que j'étais pas du tout à ma place. Et j'ai pas du tout une image humaine du consulting. Je trouve que, au contraire, c'est très. Ouais, je sais pas pourquoi je vois ça très stalinoïste. Ça me fait limite peur.
Je comprends tout à fait, et d'ailleurs c'est vraiment le cas pour le coup pour beaucoup beaucoup de boîtes, et beaucoup de grosses boîtes, où c'est vraiment des vendeurs de personnes, hein. Enfin, donc je sais que mon copain à l'époque, lui était consultant ingénieur dans une énorme boîte comme ça, et c'était vraiment, il avait que des commerciaux au téléphone qu'il plaçait par-ci par-là, c'était totalement déshumanisé. Donc, mais je pense en fait que quelque part j'étais déjà... Sans savoir ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas, et donc je pense que j'émanais déjà quelque chose de moi-même qui faisait qu'ils n'ont pas réussi non plus à me mettre dans des missions trop stakhanovistes, tu vois. En fait, quand je disais que j'étais contente d'être sur ces métiers-là, c'est quand même que les 90% du cabinet ils bossaient sur des ERP, sur des Enterprise Resource Planning, c'est des gros logiciels. Il y avait beaucoup de, enfin vraiment, on était beaucoup aussi en maîtrise d'ouvrage, ça veut dire on faisait le lien entre les développeurs sur certains logiciels et les clients. Et donc, sans développer nous-mêmes, il y avait quand même beaucoup de missions qui étaient liées à juste des développements logiciels, de fonctionnalités sur des métiers de comptable, de finance, des trucs quand même très éloignés de moi, de mon univers, un peu créa et tout. Et donc, je pense quand même que je suis arrivée et j'ai réussi un peu à faire ma place. Il y avait une direction innovation qui s'ouvrait. J'ai été beaucoup là-dedans. J'ai fait un stage, puis une alternance. Enfin, j'ai réussi à serpenter dans cette boîte aussi pour me retrouver toujours sur des trucs le plus aligné possible avec moi dans le cadre de cette boîte, disons. Donc déjà, j'étais un peu une exception dans mon cabinet parce que les gens, d'ailleurs, mes amis à l'époque me disaient souvent aussi dans la boîte, tiens, t'as de la chance, t'es sur ces missions-là, nous aussi on rêve de faire ces missions-là. J'étais vraiment sur le 1% de mission qui était un peu chouette du point de vue humain, transformation, etc. Je me suis quand même démerdée, je pense, et eux aussi, à mon avis, l'ont vu. Les associés étaient très intelligents et on leur parlait souvent. Je pense qu'ils ont clairement vu que s'ils voulaient me garder un peu, parce que j'étais un bon élément, ils me mettaient sur du logiciel. Je partais au bout de 2 jours. C'était beaucoup trop éloigné de mon univers, quoi. Donc je pense qu'ils ont aussi compris que mieux valait me donner des trucs un peu plus créa, parce que sinon j'allais pas rester très longtemps.
Oui, c'est marrant parce que tout à l'heure aussi on parlait, tu vois, des habits, de queer eye, etc. Et là, justement, t'es habillée en plein de couleurs, tu parles de créativité, d'un milieu. Et je trouve aussi que c'est un truc très, enfin, très étonnant, moi qui t'ai rencontré maintenant, de me dire que t'étais dans un milieu où, en tout cas, moi, la représentation que j'en ai, c'est pas du tout des couleurs qui partent dans tous les sens, quelque chose de très. Enfin, pas chaotique, mais au contraire, qui apporte beaucoup de cadre. Et je me demande comment t'arrives à t'exprimer dans ce milieu-là.
Alors là, du coup, je pense que c'est intéressant de faire un peu justement le lien entre le début et puis la fin. Donc d'abord, je suis entrée en stage de césure en com. Donc déjà, à la base, je n'étais pas consultante, je faisais de la com. Donc c'était quand même vraiment de la créa. J'étais tout le temps au siège de la petite boîte. Donc j'étais tout le temps dans cet univers quand même où on se connaissait tous, on se claquait la bise, on passait des bons moments et tout. Donc c'était quand même plus créa que chez nos clients, qui étaient des plus grosses boîtes. Ensuite, comme je suis quelqu'un de très curieux, que j'ai toujours envie de changer de truc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je suis OK pour faire mon alternance chez vous, parce qu'ils voulaient me garder, mais j'aimerais être du côté consultant pour découvrir un autre métier. Et puis sortir un peu aussi de la boîte et rencontrer d'autres gens et tout. Donc j'ai continué en alternance. Et en fait, j'ai suivi pas mal des managers un peu innovation. Donc déjà, ils m'ont mis vraiment du côté le plus innovant créa de la boîte, où du coup, j'ai fait pas mal d'ateliers d'intelligence collective, qui étaient vraiment les tout débuts de ce genre de mission, j'étais dessus, quoi. Donc ça me plaisait plutôt pas mal, je trouvais ça intéressant. Et puis aussi, je pense que j'avais beaucoup de croyances limitantes qui étaient, justement, moi je voyais mes potes autour de moi qui sortaient d'école, de Dauphine, etc., qui faisaient beaucoup de conseils. Je voyais ces boîtes inhumaines, très grandes, très grises, très structures, comptables et tout. Des gens qui faisaient de l'audit, enfin des trucs beaucoup plus des chiffres, des cadres et du gris globalement. Et du coup, je me disais, mais en fait, moi, je suis grave chanceuse parce que je suis dans une petite boîte à taille humaine, j'ai des potes, on me laisse quand même pas mal de liberté, je peux être à peu près moi-même. Donc en fait, je voyais beaucoup la chance que j'avais de pouvoir rester dans le cadre de la société, de la bonne élève, de ce qu'on m'avait inculqué, tout en ayant un peu de liberté.
Okay.
Vu que j'envisageais pas beaucoup d'autres choses, vu que je me suis jamais, j'ai jamais envisagé des études artistiques et tout, parce que j'étais une bonne élève et que c'était pas vraiment dans les... Ouais. C'était d'abord, bah, puisque t'es une bonne élève, fais des bonnes études. Mmh. Verrouille ce truc de t'as un bon diplôme, un master, et quoi qu'il, tu pourrais être employable. Et ensuite, si tu veux t'amuser, fais donc. Mais verrouille. Et puis, ouais, j'ai quand même deux parents enseignants. Déjà, mon père, j'ai dû batailler pour faire ES. Parce que ES, c'était la voie royale. Donc, j'ai dû lui faire comprendre que je préférais avoir un bac ES mention très bien qu'un bac S mention assez bien parce que je suis nulle en maths et en physique et que ça m'intéresse ni d'Ève ni d'Adam, quoi.
Ok.
Voilà. Donc, déjà, ES, c'était wouh!
Ok.
Voilà. Donc, pour te dire, et j'ai aussi dû dire, exprimer à l'époque que prépa, c'était mort. Tous mes profs me disaient, bah, t'es la mère de la classe, fais prépa. Par une intuition d'alignement profonde, je savais que j'allais partir en burn-out et que je détestais la compétition et que ça allait être genre l'opposé de ma personnalité. Donc je savais, voilà, déjà j'avais négocié aussi ce truc de je ne ferai pas prépa, je ne ferai pas une grande école, je ferai des concours post-bac et ou Dauphine qui était aussi en post-bac.
Ouais.
Mais il y aura pas d'histoire de HEC et compagnie parce que je ne veux pas faire de prépa.
D'accord. Ouais, mais ça restait quand même dans un schéma.
Ça restait dans un schéma élitiste,
de réussite,
bonne élève,
un peu classique,
voilà,
par lequel beaucoup. On est beaucoup passé.
Bien sûr.
Ah, ok. Et après, et c'est pendant cette alternance que t'as commencé un peu à changer, à prendre des, enfin, venir prendre des libertés et devenir plus toi.
Bah du coup, je devenais de plus en plus moi. En fait, c'est marrant, comme je te disais tout à l'heure par rapport aux fringues, quand j'ai débarqué dans ce stage, c'était vraiment ma première vraie expérience pro dans une PME et tout. Donc j'avais acheté un petit pantalon Uniqlo noir, une chemise blanche. Enfin vraiment, j'étais l'étudiante en mode je sais pas. Bon bah je vais essayer de me mettre dans le moule du monde du travail. Des fringues que je n'avais absolument pas de base parce que je mets ni du noir ni du blanc. Oui. Vraiment, je mets clairement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mais pas du noir et du blanc. Donc pendant mon stage, j'étais très comme ça et puis après petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais quand même porter des chemises mais de couleurs, des pantalons un peu structurés mais de couleurs. Donc petit à petit, j'allais vers moi. Et à la fin de l'alternance, je sentais bien que j'avais pas très envie de prendre un CDI là-bas, que j'avais plus envie d'un truc créa, j'avais postulé à quelques boulots dans la mode, voilà, des choses comme ça. Pour autant, je savais pas exactement ce que je voulais, donc c'était un peu bizarre, parce que d'un côté, je voulais autre chose, et en même temps, je savais pas vraiment ce que je voulais, donc c'était un peu difficile de postuler. Bon, j'avais quand même postulé à 2-3 trucs avant que mon alternance termine, et puis finalement, eux, ils voulaient me garder. Et je me suis dit, en fait, je sais pas vraiment ce que je veux. Les quelques CV que j'ai envoyés fonctionnent pas parce que bah c'est rien à voir un peu avec mon parcours, quoi. Si je l'explique pas et qu'ils me rencontrent pas, en fait, c'est pas très très cohérent. Et du coup, je me suis dit, bon bah je vais accepter ce CDI.
Okay.
Je vais goûter un peu aussi au salaire de consultante parce que ça fait un an et demi que je suis dans cette boîte, mais voilà, je suis quand même étudiante. Donc je vais kiffer un peu ma petite case cochée de la société de je suis en CDI de consultante, un métier adoubé par mon entourage, avec un bon salaire, etc. Kiffer un peu ma life de parisienne cadre. Exactement. et puis dans ce cadre-là, vu que je connais la boîte et tout, ça me laissera un peu de temps de liberté pour trouver ce que je veux faire.
Ok.
Et c'est là où tout bascule, parce que je signe mon CDI le 8 août 2018.
L'année fatidique.
Et le 11 août 2018, 3 jours plus tard, je commence à faire des crises d'angoisse.
Attends.
Ouais.
Aussi court ?
On est vraiment sur du 3 jours. C'est-à-dire, je signe mon CDI, 3 jours après, je fais des crises d'angoisse inexpliquées.
D'accord. Ok. Et t'avais pas encore commencé ton CDI ?
Non, c'était vraiment, je l'avais signé juste.
Ok.
Du coup, voilà, crise d'angoisse, bon, très bien. Et là, je commence à me sentir vraiment pas bien. Et je commence à vraiment tomber dans une dépression.
Ok.
Totalement incomprise à ce moment-là. Parce que, faut savoir que moi, j'étais vraiment juvamine toute ma vie. Ça veut dire, j'étais là, je vais bien, tout va bien. Donc j'étais vraiment en full acceptation des émotions agréables, en total rejet de toutes les émotions désagréables.
Ok.
Donc, tout ce que j'avais pu vivre d'un peu difficile dans ma vie... Globalement, j'étais un petit rayon de soleil. Et tout ce qui était un peu difficile, je disais non, je mets sous un tapis. Ça m'intéresse pas. Et donc, ce que j'ai compris un peu plus tard en thérapie, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ce signage de CDI, de 1, a vraiment verrouillé ce désalignement de moi. Okay. En fait, au lieu de m'être fidèle et de savoir que c'était pas là que je voulais aller, j'ai signé ce CDI, j'ai vendu mon âme au diable, entre guillemets.
En te disant,
j'aurai le temps, on verra plus tard.
Okay.
Et de deux, mon système aussi inconscient s'est senti sécurisé par ce CDI.
Ah.
Et du coup, a lâché, a accepté de lâcher. en fait, tout ce que j'avais pu mettre sous ce gros tapis qui commençait à être sacrément gros de toute ma vie, en fait, je pense que je suis passée, du coup, dans un stade d'adulte où mon inconscient s'est dit, ok, là, on est sécurisé, on a un copain, un appart, un CDI. Donc, le plan matériel est secure. On peut, genre, ouvrir les vannes de tout ce que t'as mis sous le plancher depuis 25 ans.
En fait, j'ai vraiment une image. Tu vois, la princesse au petit pois. J'ai l'impression que t'es le petit pois qui a tout pris. D'accord.
C'est ça.
Ok. Et donc, en fait, ta vie a basculé du tout au tout en 3 jours.
En 3 jours.
Et c'est peut-être une question indiscrète, je me rends compte, mais tout à l'heure, tu m'avais parlé de ton cancer.
Ouais.
Non, c'est pas du tout du col du fémur.
Du fémur, ouais.
Et ça me semblait déjà quelque chose d'assez énorme dans une vie. Et donc, j'ai du mal à voir, en ayant passé cette épreuve, enfin du moins, moi je me le représente, tu vois, comme une grosse épreuve déjà, comment après tout est sous le tapis.
Carrément. Bah du coup, je te réponds effectivement entre mes parents chaotiques et ma dépression, il y a effectivement ce magnifique cancer du fémur. En fait, à 15 ans, je découvre que j'ai un cancer du fémur. C'est un cancer qui est un cancer des os, qui est connu, qui est très bien traité si on le prend à temps, qui arrive à 200 jeunes en France par an et on ne sait pas pourquoi.
Ok.
Moi maintenant, je pense qu'en fait, c'est du psychosomatique. C'est ma croyance, j'estime pas avoir la vérité, mais c'est ma vérité. Et donc pour moi, en fait, ce qui s'est passé à l'échelle de ma vie, c'est j'ai des parents chaotiques qui peuvent être géniaux et en même temps terribles quand ils se déchirent, quand ma mère boit, quand je suis toute seule dans ma chambre et que je peux en parler à personne. En fait, j'accumule énormément de violence et de souffrance en moi que je peux pas exprimer parce que je suis un enfant, que je protège mes parents, que je protège le système. Et donc je grandis comme un petit rayon de soleil, une bonne élève, vraiment je fais aucun souci à mes parents pour les protéger. Et donc je prends énormément sur moi, mais tout ça de façon inconsciente parce que c'est de la survie. À 15 ans, première explosion du système où mon corps en fait me dit
non,
sonnette d'alarme, je commence à m'auto-détruire dans mes cellules tellement je prends sur moi. Sauf qu'à l'époque je le comprends pas parce que j'ai 15 ans, qu'on me dit que j'ai un cancer, que ça va se régler. Et que je pense encore une fois plus à mes parents qu'à moi, c'est-à-dire j'étais plus inquiète pour mes parents, enfin je voyais mes parents tellement inquiets de leur enfant qui avait un cancer, j'étais encore en protection de mes parents sur leur inquiétude et j'ai carrément rationalisé. Je me suis dit bon bah c'est un cancer, mais en vrai on me dit que dans un an c'est réglé, donc on va faire la procédure. Et très dans le mental, je me suis complètement déconnectée de mon corps. Donc une fois de plus je protège le système. Donc cette première sonnette d'alarme n'a pas résonné en moi, ne m'a pas fait comprendre qu'à un moment il fallait justement que l'attention soit sur moi et que je puisse m'exprimer. Donc ce cancer est guéri par la médecine occidentale un peu charcutière mais efficace. Donc au bout d'un an, effectivement, je suis guérie. Ça a été une épreuve qui a été très difficile, mais j'en ressors aussi plus forte, bien sûr, parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et c'est vrai. mais voilà, en fait, c'est encore une accumulation de plein de souffrances où, en fait, je protège mes parents, mais en fait, moi, j'exprime absolument pas très peu mes inquiétudes, mes difficultés, mes douleurs et tout. Je suis encore en mode, bon, bah, puisque j'ai, tu vois, un exemple très parlant, j'ai 4 jours de chimio par semaine, j'en mets 2 sur le week-end pour pouvoir continuer les cours. Ce qui fait qu'en fait, j'ai chimio samedi, dimanche, lundi, mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, je suis au lycée. Et je continue en mode warrior.
Ouais, c'est un peu ce truc dont on parlait tout à l'heure, de l'apparence et de socialement ça va, même si t'es pas sûre
qu'intérieurement
tu tiens le coup. Et donc, je vois le parallèle après avec le continue à mettre le tapis pendant la suite de ta vie jusqu'à...
C'est ça.
Jusqu'au 11 août.
C'est ça. 2018.
Les vannes se sont ouvertes.
Exactement. Et donc là, les vannes de tout ce que j'ai mis sous le tapis, que ce soit de mon enfance ou justement du cancer aussi, me disent, là, puisque tu comprends toujours pas que ça ne va pas et qu'il faut que tu regardes aussi, en fait, que tu acceptes ton expérience d'humaine dans son entièreté, ça veut dire que tu prennes le positif et le facile, mais aussi le difficile. Désolé, j'espère qu'on entend malgré les petits travaux qui se passent à côté. Puisque t'acceptes toujours pas, on va te balancer une dépression dans la tête et on verra comment ça va maintenant.
Ah ouais.
Alors il faut savoir aussi que du coup après j'ai étudié les émotions et donc la dépression c'est un sentiment et les sentiments arrivent quand on n'accepte pas les émotions au fur et à mesure. Et donc le sentiment dépression, il arrive quand l'émotion tristesse n'a pas été traversée. Ça veut dire si je mets tristesse, 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 je l'accepte pas, je la mets sous le tapis, au bout d'un moment, il y a de fortes chances qu'il y a une dépression qui arrive à un moment qui peut être totalement inopinée comme ça m'est arrivé, où vraiment j'ai pas compris, au début c'était horrible parce que je me sentais juste faussement bien mais je savais pas, pour moi j'allais bien, et du jour au lendemain j'allais mal.
Ouais, c'est
vraiment pour moi c'était incompréhensible. Exactement. D'où après mon travail sur les émotions et le fait d'accepter les émotions, parce que les émotions elles ont cet avantage d'être passagers. Donc en fait si on accepte de les traverser, elles passent. Mais si on n'accepte pas de les traverser, elles s'accumulent et se transforment en sentiments.
Ah,
qui,
ouais.
Ouais, qui est du coup plus profond et plus difficile à passer.
Okay.
Par exemple, je donne un exemple qui est un peu plus facile et quotidien. Si t'exprimes pas ta colère au fur et à mesure, moi j'ai un exemple très simple de... Je vivais en coloc avec ma meilleure pote, que j'adore, j'aime d'amour. Comme j'ai beaucoup de mal à exprimer les choses négatives, difficiles, je lui ai jamais dit... Tu vois, je gardais toujours pour moi les trucs un peu relous de la coloc, qui sont juste normales. Genre, t'as pas lavé ce truc, ça m'a saoulé de faire ça, il y avait ta chaussette qui traîne. Tout ça, je le gardais pour moi. Parce que je me disais, attends, mais c'est mon meilleur ami, on s'en fout des chaussettes, tu vois. Donc j'accumulais un petit peu de colère, et en fait un jour je me suis rendu compte que j'avais du ressentiment pour elle. Toutes mes petites émotions de colère, comme je les ai pas traversées,
okay,
se sont transformées en un sentiment. C'est pas inébranlable, hein, on peut le traverser, mais c'est juste que c'est beaucoup plus installé, beaucoup plus difficile de passer outre une fois que ça arrive. Et donc je me suis rendu compte un matin, je me suis réveillée, je me suis dit putain, mais en fait elle me saoule, et j'étais en mode merde, je ressens du ressentiment pour ma meilleure pote juste parce que je lui ai pas exprimé les conneries au fur et à mesure qui me rendait en colère, juste parce que c'était pas... Enfin, juste parce que j'exprimais pas mon besoin ou que je posais pas ma limite, sur des petits trucs, tu vois.
Je l'ai noté et je viens d'avoir un énorme déclic. Ok. Ah, grave intéressant. Et comment t'as fait alors... Enfin, pas comment t'as fait, mais... Déjà, comment tu t'es sentie pour traverser cette phase de dépression?
Alors du coup, comme je te disais, c'était très dur parce qu'en fait, je suis vraiment passée de mon système qui tient par des petits bouts de ficelle. Vraiment, j'imagine ça, tu vois, comme un château de cartes. J'avais mon appart, mon mec, mon boulot, qui me correspondait pas vraiment, mais qui était là, tu vois. Enfin, bref, ma vie un peu... alignée, mais qui était mon système sécurisé, quoi. A vraiment un sentiment profond de mal-être, d'incompréhension, d'angoisse, beaucoup de crises d'angoisse. Et puis aussi un vrai sentiment de crise identitaire profond. Okay. Ça veut dire que je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je voulais, j'étais perdue. En fait, j'étais vraiment, je ne sais plus, Julia Malek, je ne sais plus qui c'est. Je suis perdue, je ne sais pas qui c'est cette femme. Je me suis tellement. J'ai tellement construit une vie qui n'était pas alignée avec moi que je me suis perdue.
Okay.
Et pour te donner un exemple très concret aussi de trahison de moi-même,
ouais.
Par exemple dans ma relation avec mon ex, en fait j'étais en suradaptation sur son fonctionnement qui était très différent du mien,
ouais.
Et je m'en rendais pas du tout compte, hein, c'était totalement inconscient, mais en fait je m'adaptais en permanence à son fonctionnement qui était opposé au mien, et donc à force de me trahir comme ça, forcément en fait je me suis tellement éloignée de moi qu'à la fin j'ai perdu mon identité, c'est-à-dire me disais mais qui je suis?
Ah oui.
Qui je suis, en fait?
Mais, en fait, j'ai une question, mais qui est assez random. Mais depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de, tu vois, de devenir moi. J'ai noté que c'est vraiment aller vers moi, etc. Et donc, je me demande, est-ce que, finalement, c'était pas même pas une question de se perdre, mais juste que t'étais déjà pas toi de base?
Absolument.
Okay.
Absolument. T'as tout à fait raison. En fait, comme je te disais, j'ai grandi en pure adaptation, toujours à mon environnement, protéger le chaos autour de moi, m'adapter aux gens, tu vois, répondre aux attentes d'abord de mes parents et de la société, que ce soit pour le boulot, pour le salaire, tu vois. Effectivement, de toute ma vie, j'ai toujours été en adaptation et je me suis jamais mise en priorité sur ce que moi je voulais vraiment. Donc c'était vraiment une accumulation de trahison par rapport à moi-même qui a aussi créé cette crise identitaire de mais en fait qui je suis dans tout ça, dans toutes ces attentes et dans toutes ces adaptations et dans tous ces, je m'imagine tu vois comme un petit bonhomme qui essaye de d'avoir les 8 bras de Shiva pour régler les fuites d'eau, tu vois. Ça fuite partout et je règle les problèmes de tout le monde et je m'adapte. Et j'ai plein de bras pour tu vois, je m'adapte à mon copain mais je m'adapte à mes parents et puis je m'adapte à la société et puis je fais pas trop de vagues et puis je suis toujours sympa et puis je parle jamais de mes émotions et en fait j'implose parce que
ouais, c'est pas c'est juste pas possible en fait de tenir comme ça, d'être en équilibre tout le temps. OK. Et donc est-ce que enfin parce qu'aujourd'hui je vois t'as l'air t'as l'air vraiment aux antipodes de la personne que tu décris. Est-ce que t'as réussi à mener cette découverte identitaire sur un temps donné comment tu as réussi à un peu sortir la tête de l'eau? Parce que j'imagine que quand tu prends un tsunami comme ça, tu bois quand même pas mal à la tasse.
Absolument. Très belle métaphore, c'est exactement ça.
C'est les nageurs, les nageuses. On est dans la piscine.
Bah écoute, justement, c'est pour ça en fait que j'en ai parlé, hein, parce que c'est vraiment le basculement de ma vie vers le développement personnel. En fait, j'ai toujours eu des stratégies de survie, de solutions. Donc en fait, quand je me suis sentie extrêmement mal et que je comprenais pas pourquoi, je me suis dit, ok, je n'aime pas du tout cette situation, c'est extrêmement désagréable et j'ai très peu envie de vivre ça. Donc je vais tout faire pour m'en sortir le plus rapidement possible.
Ok.
Et donc j'ai vraiment utilisé tous les leviers à ma disposition. Donc je suis allée voir un psy déjà, je me suis dit, bon, première chose, je vais voir un psy. Deuxième chose, je vais bouffer du développement personnel. Mais vraiment, je vais manger tous les podcasts possibles et imaginables, les livres. vraiment, voilà, j'ai tout donné là-dessus pendant plus d'un an sur le développement personnel. Okay. Et aussi, je me suis énormément appuyée sur mes amis. Ça a été un soutien immense. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai demandé à l'aide autour de moi. En fait, je me suis rendu compte que j'aidais tout le temps les gens.
Ouais.
Mais que moi, j'avais quasiment jamais parlé de mes difficultés.
Ok.
Même auprès de mes amis les plus proches, alors que je sais qu'ils étaient totalement là pour ça et que c'était vraiment moi juste qui ne parlais pas, ce qui n'allait pas parce qu'en fait juste je le niais.
Ok.
Et donc je me suis beaucoup appuyée aussi sur mes amis pour discuter, pour parler de mon mal-être, pour parler de mon incompréhension, etc.
Et c'était pas trop. Bon après j'imagine que quand t'es au fond du trou, rien n'est trop difficile, mais c'était pas trop difficile justement de. Enfin, de switcher et d'oser aller leur poser des questions, parce que j'imagine que quand tu te construis une identité sociale, c'est aussi difficile d'en sortir et de pousser un peu les murs.
Ça a été très difficile, mais je dirais que j'ai commencé vraiment par les amis les plus proches qui eux-mêmes m'avaient confié, tu vois, des difficultés et tout, et où je savais qu'il n'y aurait pas de jugement et tout, et j'ai vraiment, je pense, à quelques amis extrêmement proches qui m'ont aussi vraiment sauvée à ce moment-là parce que. Parce qu'elles étaient là pendant mes crises d'angoisse, parce que je pouvais leur en parler, parce que je pouvais leur partager aussi juste cette incompréhension et cette incertitude sans forcément avoir de réponse, mais juste leur dire je me sens hyper mal, je comprends pas pourquoi, c'est horrible. Et elles me disaient ok, bah on est là, appelle-nous, bah viens, on va manger une glace et, et ce sera toujours ça de pris quoi.
Ok, ah c'est bien. Et est-ce que tu t'as osé aussi te tourner vers tes parents? T'étais en rupture aussi avec le schéma familial dont tu parlais au début, avec le cadre de la réussite qu'on t'a impliqué.
Écoute, oui, je les ai appelés, je me souviens justement quand j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, comme je sais quand même que mes parents avaient pas mal de blessures et tout, que c'était un peu des angoissés. J'ai appelé mon père et j'ai appelé ma mère et je leur ai demandé chacun individuellement, est-ce que vous avez déjà fait des crises d'angoisse?
D'accord.
Et donc ma mère m'a dit que non.
D'accord.
Donc ça m'est déjà arrivé une fois de l'appeler en crise d'angoisse pour qu'elle me rassure et tout. Mais elle m'a pas donné des clés là-dessus. Là où mon père, on a un fonctionnement assez similaire sur ce côté très jovial, très sociable, très drôle à l'extérieur, pour aussi cacher ce côté foncièrement angoissé à l'intérieur.
D'accord.
Et donc en fait il m'a beaucoup aidée effectivement, et donc je partage ces clés qui m'ont aidée sur les crises d'angoisse et sur l'angoisse en général.
D'accord.
Il m'a donné... un grand tip, ce qui est en fait d'extérioriser l'angoisse. L'angoisse, c'est vraiment un petit vélo qui roule à l'intérieur et qui prend de l'ampleur. C'est une boule de neige en fait. Donc ça prend énormément d'ampleur quand on s'est dans notre tête et qu'on est enfermé là-dedans.
Okay.
Mais dès qu'on le sort, que ce soit tout seul en écriture, que ce soit en parler à quelqu'un, que ce soit même juste marcher dehors, voir que le monde continue de tourner, que les gens sont attablés, boivent des verres et que la vie continue. En fait, c'est de sortir de sa tête et de se rendre compte qu'en fait, à l'instant T, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, tout va bien.
D'accord.
En fait, une angoisse, c'est quelque chose, c'est une anticipation de catastrophe. Mmh. Et donc, si on arrive à revenir à l'instant présent, ça aide à se rendre compte qu'en fait, dans l'instant présent, tout va bien.
D'accord.
Et que si on a une angoisse, c'est que justement, il y a quelque chose qui va bien et qu'on a peur de le perdre. Justement. Si j'ai peur de par exemple, de mourir, si je fais une crise d'angoisse sur « je vais mourir », c'est qu'en fait, je suis en vie et que je suis hyper attachée à la vie et que j'ai peur de la perdre. Si je fais une angoisse sur... qu'est-ce que j'ai... Je sais pas, je prends des exemples. Par exemple, sur « je vais devenir folle », c'est des trucs classiques de crise d'angoisse. Je suis en train de devenir folle parce que, bref, c'est une crise d'angoisse classique. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais que j'ai une vie assez saine et que j'y suis attachée.
D'accord.
Donc on peut aussi revenir à qu'est-ce qu'on a peur de perdre et aujourd'hui se rendre compte qu'en fait, c'est le cas et que tout va bien.
D'accord.
Donc la gratitude qui combat très très bien la peur, de un, et de deux, l'extérioriser,
d'accord,
qui aide énormément à stopper l'engrenage de la boule de neige. En fait, ce qu'il faut savoir avec le cerveau, qui est hyper intéressant, c'est que le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux.
D'accord.
Le cerveau, si on lui donne une pensée, pour lui, penser égale réalité.
Ok.
Donc, c'est super cool dans les méthodes de visualisation. Si je me dis, je gagne déjà 10 000 euros par mois en tant qu'entrepreneur, le cerveau va le croire. Donc, il va le manifester d'autant plus dans la vraie vie. Il va trouver toutes les opportunités pour confirmer ce biais positif. Mais de la même façon, si je me dis, je vais devenir folle, ou je vais mourir. En fait, il va vraiment penser qu'on a un danger de mort. Et donc, il va activer... du stress, des palpitations, en fait toutes ces réactions de crise d'angoisse, c'est juste ce qui nous prépare à fuir ou à combattre. En fait, c'est comme si on était face à un vrai lion dans la savane, quoi, c'est-à-dire archaïque, et qu'il fallait qu'on ait un pic d'énergie pour fuir le lion ou le combattre.
D'accord. Oui. En fait, c'est des sentiments de survie.
Exactement.
Assez primaires, mais contre lesquels on n'est pas du tout armé pour...
Absolument, pour et c'est pour ça que le fait de l'extérioriser permet de stopper ça, et de dire au cerveau, en fait, c'est pas grave, c'est qu'une pensée. Tu vois, si je reste dans ma pensée de « je vais mourir », oh putain, c'est effectivement... Et en plus, nous, tu vois, du coup, ça s'autoconfirme, c'était en mode, mais oui, j'ai des palpitations, mais oui, je vais faire une crise cardiaque, mais oui, en plus, j'ai super chaud, mais oui... C'est... Et donc, en fait, tu pars dans l'angoisse, dans vraiment la crise d'angoisse, alors que si tu dis « putain, je vais mourir », alors par exemple, exemple très, très précis, depuis que j'ai eu un cancer, je suis devenue hypochondriaque sur certains trucs.
Ok.
Je l'ai accepté, avant, j'étais pas du tout comme ça, et maintenant, parfois, sur un truc à la con, genre... Une fois, j'avais mal à l'oreille, je pense que c'est à cause du masque, force de porter des masques, j'avais mal à l'oreille, vraiment truc débile. Et première pensée que j'ai eue, c'était « je vais mourir ». Suite à mon cancer, on t'annonce un truc très dangereux qui arrive du jour au lendemain. Bref, j'ai compris en thérapie que souvent, on peut avoir ensuite des crises un peu d'hypochondrie.
D'accord.
Quand, dans ta vie, t'as eu un événement brutal comme ça, de danger mortel.
D'accord.
C'est juste un trauma, c'est ok. Mais bref, du coup, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que quand j'ai mal à l'oreille, ou que j'ai mal à l'orteil, ou que j'ai mal au bout du nez, et que ma première pensée, c'est « je vais mourir », j'arrive à le voir, déjà grâce à la méditation, j'encourage la méditation, qui permet de voir tes pensées arriver.
Ok.
Et donc j'arrive à juger que ce n'est pas réaliste comme pensée par rapport à mon symptôme.
D'accord.
Et donc tout de suite, je vais aller en parler, je vais dire à mon copain, putain, voilà, j'ai mal au bout du nez, je crois que je vais mourir. Ou à ma coloc. Ou à mon collègue. Et tout de suite, en fait, on va se marrer.
Oui.
Parce que lui va me dire, c'est complètement con. Moi, je vais me dire, écoute, je vais pas me juger parce que je sais d'où ça vient. Je vais dire, j'ai eu un cancer, je sais que c'est un trauma classique, donc je me prends dans mes bras, je me fais un petit câlin de réconfort, je sais que c'est okay, mais juste je stoppe le truc avant de me dire mais bien sûr que je vais mourir, mais c'est sûr, mais c'est sûrement une tumeur du bout du nez, mais sûrement que je l'ai pas découverte et qu'en fait il est trop tard et que je vais ou bien que je vais mourir sur place parce qu'en fait c'est genre un truc qui va me provoquer un arrêt cardiaque dans la seconde, et bref, je stoppe le truc avant que ça donc voilà, si vous avez des crises d'angoisse ou que vous voulez bosser sur l'angoisse, n'hésitez pas à me contacter, on en parle. Je suis devenue experte en crise d'angoisse.
Ok.
Voilà.
Mais c'est génial, parce que c'est vrai que c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Moi, j'ai un côté ultra germaphobe. Enfin, ultra. J'ai un côté germaphobe. Et j'ai mis au point des petites techniques pour pouvoir, à mon échelle, vivre avec ça. Et des fois détourner le regard quand je vois que quelqu'un ne fait pas ci, ne fait pas ça, au contraire de me dire des fois ça arrivait à cette personne elle s'est mouchée, elle a touché ça, je vais attraper un rhume, je vais rester des années au lit et je vais mourir, et à Alors qu'aujourd'hui, je me dis juste, ok, moi, je vais mettre... Est-ce que je vais prendre un gel, soit qui sent très bon, soit qui pue, mais qui... où je me dis, ça va marcher, et ce sera beaucoup plus simple après. Mais c'est plein de choses auxquelles on ne pense pas, nécessairement. Mais trop bien. Putain, j'ai moi-même. Comme quoi, honte, dire des grands mots sur ce podcast. Mais ouais, trop bien ces références à l'angoisse, que je pense que beaucoup de gens l'ont. Mais personne m'en a jamais parlé, donc comme
c'est
moi.
C'est hyper important.
Ouais, comme moi, j'en vis pas. En plus, je suis vraiment très très mal placée pour pouvoir essayer d'aider les gens là-dessus. Donc merci beaucoup.
En parler, c'est vraiment le premier pas et c'est extrêmement libérateur, vraiment.
Mais c'est sur le côté d'être perdu dans sa vie, de pas forcément savoir, c'est le plus dur, mais ce qui aide le plus aussi.
Absolument.
Ah oui, donc je boucle la boucle. Tu disais que tu avais commencé à parler justement autour de toi de ces questionnements identitaires,
ouais.
Que tu avais commencé une thérapie. Et après, est-ce que tu t'es aussi fait aider de d'autres manières pour pouvoir un peu surmonter ces nouveaux sentiments et un peu compléter le travail de thérapie? Ça s'est passé comment?
Absolument. Donc du coup, je dirais qu'en fait, ça a commencé à aller mieux au bout d'à peu près 6 mois.
Ok.
Avec le psy que j'ai vu, puis toutes les ressources de développement personnel, dont vraiment je recommande beaucoup le podcast Change ma vie, qui du coup a changé ma vie aussi.
Oui, Change ma vie.
Et donc, avoir cette information, vraiment un des trucs qui m'a le plus soulagée, c'est d'avoir cette information de nos pensées créent nos émotions. Donc c'est ce que je viens de dire, le cerveau ne fait pas la différence entre une pensée et la réalité.
Okay.
Donc nos pensées créent nos émotions, et nos émotions créent notre réalité, donc nos actions. Okay. En fait, le mot émotion, ça vient du grec mauvais, enfin bouger quoi.
Okay.
Et donc ça veut dire que les émotions sont l'unique raison pour lesquelles les humains bougent leur cul.
Ah, ok, je m'attendais pas du tout à ces
conclusions. En fait, faut savoir que vraiment, l'humain, on est un animal très simple.
Okay.
On ne fait des choses que pour ressentir des émotions positives,
okay,
ou éviter des émotions négatives. Ce sont les seuls drivers de pourquoi, okay, on bouge notre cul tous les matins.
D'accord.
Il faut le savoir.
Ok.
Et donc, une fois qu'on sait ça...
Donc tous ces trucs de mission de vie, trouver ce qui nous motive le matin, en gros c'est trouver soit ce qui nous évite d'être en PLS, ou au contraire, ce qui peut nous aider à nous ressentir cette émotion, ce chat de... d'endorphines tous les jours.
Okay. Absolument. Et donc, en tout cas, moi, c'est vraiment une prise de conscience qui m'a énormément aidée, de me dire, en fait, je peux changer ma réalité et mes actions en changeant mes émotions, et pour changer mes émotions, je peux changer mes pensées.
D'accord.
Un exemple très simple que je donne souvent, c'est la météo. En fait, s'il pleut, un matin, je me lève, il pleut. Si je me dis, putain, je déteste quand il pleut, voilà, je vais pouvoir rien faire de ma journée, je vais être bloquée parce que je peux pas sortir, je peux plus faire du coup l'événement que je voulais faire, rencontrer cette personne, donc je vais être chez moi, je vais me faire chier toute la journée. De fait, on va du coup pas sortir, annuler nos plans, avoir le seum et rester dans son canapé à bougonner toute la journée et passer une journée de merde.
Oui.
Prophétie autoréalisatrice. À l'inverse, si je dis, oh, aujourd'hui il pleut, et moi ça tombe bien parce que de temps en temps, j'aime bien quand il pleut, parce que c'est l'occasion justement de plutôt bosser sur des choses un petit peu intérieures. Je me pose dans mon canapé, je me mets un gros plaid, je me prends un chocolat chaud, et c'est une journée vraiment plus je bosse sur mon entreprise ou je bosse sur moi. Et puis c'est très bien, ça me fera une petite pause de la partie sociale, de courir partout, parce que de toute façon, j'ai pas très envie de sortir. Mais on va sûrement passer une journée hyper cocooning, on va être avec notre petit plaid, on va se faire un chocolat chaud, on va bosser sur notre petite com ou sur notre petit canapé tranquillement, et on aura passé une journée hyper sympa en prenant la pluie juste comme une contrainte et un cadre dans laquelle on peut exprimer notre créativité et nos envies. Et donc, c'est un exemple très parlant et simple de se dire qu'en fait, selon la pensée que j'ai eue, merde, il pleut, ça m'empêche de faire des choses, ou chouette, il pleut, c'est l'occasion de faire certaines choses en particulier ou en priorité. Du coup, dans le premier cas, j'ai eu des émotions négatives de déception, de colère, Donc, je vais avoir des actions qui vont aller dans le sens de la colère, du refus, de la déception, etc. À l'inverse, j'ai eu des émotions du coup de bien-être, de calme, de recentrage, d'alignement, de prise de soin de soi, etc. Du coup, je vais avoir des actions qui vont s'aligner avec ça.
Ok. Ah, mais ça rejoint un peu ce qu'on était en train de se dire aussi avant sur la question du vocable et comment notre langage façonne aussi un peu notre réalité et notre grille de lecture.
Absolument.
Parce que si tu te dis un truc est de la meuf. Ah bah oui, voilà, qu'il pleut.
Il commence à pleuvoir, voilà, justement.
Comme actuellement. Et ouais, que c'est pas forcément bien ou qu'il faut absolument que tu fasses tel truc. Ça peut être handicapant pour la personne si jamais. Bah j'arrive pas à terminer ma phrase, mais j'allais dire si jamais justement ça te met dans un état d'esprit négatif. Ok.
En fait, c'est important de se rendre compte que tout ce qu'on vit, toutes les circonstances de vie sont neutres et c'est nous qui colorons avec nos pensées ce qui se passe. La pluie n'est pas bonne ni mauvaise. La pluie, elle existe juste, c'est juste la pluie. Il n'y a pas de. D'ailleurs, j'essaie par exemple d'arrêter de dire il fait moche ou il fait mauvais. C'est déjà un jugement en fait. Il pleut, c'est juste ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Oui. Si je dis il fait mauvais, c'est déjà dans un jugement de j'estime que la pluie c'est pas bon ou que ça me plaît pas.
Ah.
Alors que tu vois, je pourrais très bien dire quand il pleut, je pourrais très bien dire oh aujourd'hui il fait cocooning.
J'adore.
Oh aujourd'hui il fait Noël. Oui. J'en sais rien, tu vois, chacun sa définition. Mais en fait, c'est important de se rendre compte que c'est nous qui colorons tous les événements de notre vie.
D'accord.
Oui. On peut toujours faire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle toujours de ce truc de est-ce que c'est un échec ou un apprentissage, comment est-ce qu'on parle de des choses, tu vois, moi quand je disais ce qui me rend, ce qui me tue pas me rend plus fort, tu vois, est-ce que je vois mon cancer du fémur comme putain, mes parents c'était des connards et j'ai pas pu m'exprimer et à cause d'eux j'ai été malade, ou est-ce que je me dis waouh, en fait je suis allée tellement dans l'adaptation que j'en suis arrivée à m'auto-détruire de l'intérieur. Et en fait, la vie a essayé de me montrer plusieurs fois que ça n'allait pas et que j'étais pas en train de prendre soin de moi. Et j'ai fini par le découvrir, puis prendre soin de moi. Puis du coup, aujourd'hui, en fait, j'utilise ça pour enseigner aux autres à faire de même, de par mon expérience, tu vois.
Oui, c'est la question opportunité ou au contraire, est-ce quelque chose qui va te miner, va miner ton estime de soi.
Ouais. D'ailleurs, j'ai envie de partager quelque chose que j'ai une super psy et que ma psy me dit souvent. C'est qu'en fait, les choses les plus difficiles dans notre vie, les blessures les plus profondes, les choses les plus horribles qu'on a vécues et tout, c'est toujours un terreau inestimable. C'est vraiment un trésor. En fait, c'est un peu ce truc de. C'est un peu comme dans la nature, le compost. C'est-à-dire que nous, tous nos déchets, notre caca et. Et vraiment, tout ce qui nous semble le plus répugnant, les fruits pourris et tout, en fait, si on les laisse un petit peu maturer dans la nature, et ben, ça devient un engrais exceptionnel. Et de la même façon, toutes nos épreuves dans la vie, c'est souvent ce qui nous permet d'avoir des expériences extrêmement riches, et que si on les laisse un petit peu infuser, et qu'on travaille dessus, en général...
Ça fait un thé de verre de fou.
Exactement, et ça fait de nous... quelqu'un qui peut partager en général des choses très puissantes qui nous sont propres et uniques parce que nous sommes les seuls à avoir vécu spécifiquement ce genre d'expérience, quoi.
Je pense que je vais te demander plus tard l'adresse de ta psy.
Ma psy est géniale, je la recommande à tout le monde et je l'accueille sur tous les toits. Voilà. Elle est incroyable.
Parce que oui, effectivement, c'est vraiment un truc qui a l'air assez génial. Je digresse de folie, mais je trouve ça assez fou que tu aies une connaissance de toi aussi accrue. Non, je sais pas si tu t'en rends compte, je pense que oui, au stade où tu en es. Mais on sent que t'as cet alignement dont tu me parlais tout à l'heure où ton arbre pousse plus ou moins droit aujourd'hui. Et je trouve ça trop cool d'avoir un peu cette sérénité de vie dans les propos. Parce que c'est pas quelque chose de très commun. Et d'arriver à partager toutes ces épreuves, etc., ça prouve aussi que le cheminement est en train de se faire. Merci.
Et tu vois, c'est justement... je pense que j'en suis arrivée là, justement grâce à ces expériences douloureuses. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça que je me permets aussi d'en parler. Et que moi, je trouve que c'est très important. Donc, tu vois, en fait, la première fois que j'ai parlé, c'était mes parents chaotiques. Donc vraiment, je trouve que parler des choses intimes et difficiles est très salvateur pour l'humanité en général. Et oui, et en fait, c'est grâce à mes parents chaotiques, à mon cancer et à ma dépression que j'ai été obligée de m'occuper de moi et de me mettre au centre de ma vie et de me connaître, en fait. Donc c'est grâce à toutes ces difficultés-là qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus alignée et qu'aujourd'hui, je peux accompagner justement des personnes à faire ce chemin que moi, j'ai parcouru. Donc j'en suis infiniment reconnaissante, en fait.
Et est-ce que dans ce même esprit, avant de peut-être avant de clôturer, est-ce que tu... Enfin, pardon, je reprends ma question. Parce que là, dans tout ce que tu disais, et moi, dans mon entourage, je me rends compte que les gens qui semblent avoir beaucoup évolué sur des temporalités assez courtes sont des gens qui traversent des épreuves de vie assez fortes. Tu vois, tout à l'heure, moi, je te parlais de ma boulimie. Je pense que c'est quelque chose qui m'a aussi forcé un jour à me dire « Ok, j'ai les seins et les dents en vrac, donc il va falloir faire quelque chose. » Et travailler sur cette confiance en soi. J'ai pas mal de potes qui font des burn-out ou qui vraiment se... Enfin, j'avais rencontré il y a pas longtemps quelqu'un qui s'est fait hospitaliser justement parce qu'elle était trop mal au travail. Et au fond, moi, j'ai cette conviction qu'on peut aider les gens pour éviter les ruptures. Mais j'ai aussi l'impression que ce sont ces ruptures qui nous forgent. Donc, est-ce que, à ton avis, il y a dans le changement nécessairement cet avant-après ou du moins ce moment de gros chaos qui nous fait tous peur? Tous peur.
Ouais. Écoute, c'est une question qu'on me pose souvent. Et que je me pose aussi la première. Okay. En fait, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est... Je pense pas que ce soit obligé de passer par là.
Okay.
Je pense juste qu'il y a des gens qui ont besoin de passer par là. Je m'exprime, okay. Je m'explique par exemple. Souvent je dis ça.
Exprime-toi.
Souvent je dis ça, je pense qu'il y a des lapsus révélateurs. Je m'explique par exemple, moi avant de ma dépression, pendant un an j'ai fait des petites crises d'angoisse. Mais en fait je savais pas que c'était des crises d'angoisse. Et tu vois, et je me disais, ah, j'ai quand même un peu des peurs que je comprends pas trop. Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir un psy. Je me suis dit ça pendant un an avant d'avoir ma dépression.
Okay.
Donc tout ça pour dire que l'univers et la vie nous montrent, en fait, il faut se dire que la vie, elle nous montre toujours gentiment les trucs. En fait, elle est sympa, la vie. À la base, elle nous dit, hé, frère, est-ce que tu ferais pas ça? Après, elle te dit, frère, ce serait bien que tu fasses ça. Frère, fais ça. Et après, elle te fout un plat à tarte dans la gueule.
Un quoi?
Un plat à tarte dans la gueule. Ah, okay, peu importe, oui. Ça peut être une dépression, oui. Un cancer, un ulcère, enfin un burn-out, oui. Peu importe, en fait. Donc moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que comme je suis passée par ça, j'aimerais éviter aux gens qui passent par ça. Cependant, je sais que parfois, il y en a qui ont besoin de passer par ça. Donc, ce que je me dis, c'est qu'en fait, moi, aujourd'hui, je suis coach. Je propose mes services. Je les offre sur un plateau. Et si les gens veulent s'en saisir, ils s'en saisissent. Et je leur fais confiance pour ou s'en saisir avant la rupture. Et je serais très heureuse si je peux éviter des burn-out et des ruptures qui sont difficiles. Ou des gens comme moi, hein, la première... où je savais que je pouvais aller voir un psy pendant un an, et j'ai dû, parce que j'ai fait de mon mieux, hein, faut pas s'autoflageller, j'ai fait de mon mieux, on fait tous de notre mieux à chaque instant, et en fait j'ai pas été capable d'aller voir un psy avant ma dépression.
Ok.
Donc je dirais, il n'y a pas d'autoflagellation à avoir, on a tous nos fonctionnements. Moi j'ai tendance à dire, du coup aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire de la sensibilisation à ces signaux d'alarme de la vie, nous fait des signaux d'alarme, des gentils, des moins gentils, des difficiles et des hardcore.
Ouais, mais c'est vrai.
Si vous vous en rendez compte et que vous avez envie de prendre une perche avant d'avoir le signal hardcore, je suis là. Et il y a des thérapeutes aussi qui sont là, et moi je conseille beaucoup le psy et le coaching en même temps. Enfin, moi c'est ce qui m'a aidée.
Okay.
Parce que suite au psy, j'ai suivi deux coachings.
D'accord.
Avant de me lancer en tant que coach, donc je trouve que les deux fonctionnent très bien ensemble. Et après, si on a besoin de passer par une rupture et qu'on juste même en faisant de notre mieux, on n'arrive pas à choper les perches avant, c'est ok. Et c'est ok. Chacun fait son chemin.
Ok.
Voilà.
Et j'avais une autre question.
Ouais.
Qui était, tu vois, par rapport à la reconstruction personnelle.
Ouais.
J'ai l'impression que toi, tu parles beaucoup d'artistique, à trouver une façon de s'exprimer. Il y a aussi beaucoup de volonté de transmission. Et comment tu fais justement pour trouver le canal qui était propre? C'est une question très vaste.
Ok, donc tu veux dire pour faire de tes expériences difficiles un terreau, etc. Et comment est-ce que tu trouves, du coup, comment tu vas l'exprimer dans le monde et comment tu vas, toi, accompagner les gens ou...
Pas forcément en termes d'accompagnement, mais vraiment de... Comment tu fais pour trouver la... Enfin, pas déjà une fois qu'as trouvé ta voix, comment tu fais pour la faire résonner auprès des autres? Parce que tu vois, toi, c'est via le coaching... Tu parlais d'art, d'écriture, d'expression corporelle. Je sais que j'ai des potes qui passent aussi par l'art, qui font... Enfin, moi, je fais beaucoup de photos. Et il y a plein de choses comme ça où ils me disent, finalement, c'est des petit canal de communication qui fait qu'on continue à se développer, ouais. à trouver qui on est. Enfin, j'ai vraiment ce truc de du sable qu'on affine. Mais comment, ouais, comment tu fais pour trouver
tes petits canaux justement?
C'est ça.
Ok. Alors je pense que là en fait ça passe beaucoup par justement réussir à mieux se connaître,
okay.
apprendre à se connaître, qui l'on est, c'est quoi nos valeurs notamment, je trouve que ça aide beaucoup, ouais. pour regarder une liste de valeurs sur Google et se dire qu'est-ce que c'est mes valeurs, mmh. et vraiment partir de ses envies, de ce qu'on aime dans la vie. Ça, c'est vraiment la base. On peut faire une liste de tout ce qu'on aime. Et si on a du mal, parce que souvent, en tant qu'adulte, il y a beaucoup de signaux qui sont brouillés parce qu'on a eu des injonctions, la société et tout, on peut revenir justement à notre enfance. On peut dire, quand j'étais petit, quand j'étais petite, qu'est-ce que j'aimais faire ? Moi, je sais que depuis que je suis petite, en fait, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Hein. J'ai toujours aimé chanter. Aujourd'hui, je suis partie d'une comédie musicale, qui d'ailleurs, du coup, me permet de chanter, danser et jouer la comédie, ce que j'avais comme rêve quand j'étais petite.
Ah, mais oui.
Le côté accompagner des gens au bonheur, bah, je l'ai fait en tant que coach. Et le côté proche des animaux, là j'essaie de trouver une association pour m'occuper des animaux. Donc c'est des choses qui sont restées en fait. Donc on peut se reconnecter à ses rêves d'enfant et à ce qu'on aimait faire enfant, si on a un petit peu du mal. Et on peut aussi réfléchir en tant qu'adulte, qu'est-ce qui nous fait envie, qu'est-ce qui nous donne envie, et investir ces différents lieux de notre vie.
Okay.
Que ce soit du coup du travail ou pas. Parce que moi par exemple, du coup, le coaching m'a aussi aidé à me dire, dans toutes ces palettes de trucs que j'ai envie d'exprimer, qu'est-ce que je fais en mode travail, qu'est-ce que je fais en mode loisir. Donc par exemple, pour l'instant, je me suis dit, bah, rendre les gens heureux, j'ai envie de le faire en mode travail, donc je suis coach. Et tout ce qui est artistique, pour l'instant, je le fais en mode loisir, donc je suis dans une asso de comédie musicale.
D'accord.
Peut-être qu'un jour, ce sera l'inverse, peut-être que ça va changer. Et un truc sur lequel j'ai envie d'insister, c'est que vraiment, je trouve qu'il faut qu'on arrête de parler de sa voix. Enfin, moi, personnellement,
ouais.
ça m'agace parce que je trouve que, en fait, ça nous restreint et ça nous met une pression de malade.
C'est vrai.
Alors qu'on est des fucking êtres humains. Et les êtres humains, on a plein de trucs qui nous intéressent. Et c'est ça qui est riche. Mmh. Donc, on a plein de voies qui sont possibles. Et pour moi, ce qui est important, c'est de suivre une de ses envies. Ou deux de ses envies, ou trois de ses envies. Toi, tu me disais que t'avais un compte Insta de photos. Un compte Insta sur... tout ce qui est Millennials Today.
Oui.
Tu vois, enfin voilà, il y a plusieurs, t'as plusieurs casquettes.
Ouais.
Moi, c'est pareil. Sur mon compte Insta, je raconte ma vie. Je prends des photos parce que j'adore la photo. Je mets aussi des vidéos où je chante. On est tous multipotentiels, donc investir ces champs-là. Et pour donner l'exemple du conseil où je me suis barrée, je me suis dit aussi à un moment, putain, c'est quand même con. Tu aimes 1503 choses. Et tu travailles juste sur des métiers comptables. Un des rares trucs que tu n'aimes pas, qui ne t'intéresse ni d'Ève ni d'Adam, tu bosses dessus.
Okay.
Donc ça fait partie de ma prise de conscience.
Okay.
Tu vois, de me dire, c'est quand même con, alors que tu aimes vraiment 16 choses, que tu te concentres juste sur ton travail, sur la chose qui ne t'intéresse pas. Mm. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent là, c'est faites des trucs que vous aimez. Mm. Ne prenez pas la tête sur qu'est-ce que vous aimez le plus, qu'est-ce qui va vous faire gagner de l'argent, on s'en fout. Mm. Juste faites des trucs que vous aimez. Et vous allez voir, peut-être qu'il y aura une opportunité pour faire un truc en asso, peut-être qu'il y aura une opportunité pour faire un boulot. Faites les trucs que vous aimez. Mmh. Et il va y avoir des décantements et des choses. Et en plus, ça change au fur et à mesure de la vie. Moi, il y a un moment, j'ai failli faire un CAP pâtisserie. Parce que ma passion du moment, c'était la pâtisserie. Aujourd'hui, j'adore bouffer des pâtisseries, mais je me verrais pas trop en faire particulièrement. Et il faut aussi accepter ça, que juste au fur et à mesure de la vie, on va avoir des nouvelles passions, des trucs qui s'éteignent, des trucs qui se rallument. Être en fluidité là-dessus, quoi.
C'est trop beau, cette image de lumière que tu utilises. Je sais que c'est celle que tu utilises aussi dans ton coaching, mais ça te va très bien de rallumer les lumières. Ça fait penser à Apollinaire. Je n'ai pas du tout cité parce que j'ai oublié la citation entière. Mais merci beaucoup. C'était vraiment
avec
trop
plaisir.
Chouette. En plus, on a commencé par l'enfance. On termine par l'enfance. Je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir clôturer. Merci encore.
Merci à toi, Pouli. C'était trop, trop chouette.
Et à bientôt, j'espère.
Avec grand plaisir.
Sur le podcast ou ailleurs.
Avec grand plaisir.
Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'études t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on te propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau !